Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette première rencontre de Profession Reporter, donc dans le cadre du cycle. Alors bien entendu, je n'ai pas de prospectus. Hop, sous la main, voilà. Dans le cadre de ce cycle, reportage état des lieux, je vous invite à prendre la plaquette. Voilà, consacrée au reportage, nous inaugurons cette date avec François Meurice, que je remercie chaleureusement, du site en ligne Les Jours, mais il aura toute occasion de nous, toute latitude pour nous présenter ce site et lui-même. Donc là, l'idée, c'était voilà, dans cette, normalement, ce contexte convivial, si vous n'êtes pas trop loin, et chaleureux, de profiter d'avoir une personne d'une rédaction pour un peu mettre en avant ces métiers qu'on voit moins, les métiers d'éditeur pour vous, François. On recevra aussi le chef photo. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, François Meurice, quelle est votre fonction?
Donc, je m'appelle François Meurice, j'ai 38 ans et donc je suis journaliste, généraliste au départ. Et dans les métiers du journalisme, puisqu'il n'y a pas que le métier de présentateur de journaux télé, rédacteur de presse écrite ou reporter radio, il y a d'autres métiers qu'on connaît effectivement en général un peu moins bien. On peut penser, là je vous parlais de mon collègue Sébastien qui est chef de la photo, qui est photographe, qui est photoreporter et qui est journaliste. Je vais manger un peu plus le micro pour qu'on m'entende. Et donc moi, je suis éditeur, aussi appelé secrétaire de rédaction, qui est un métier donc, de la presse écrite et de la presse Internet, ce qui est mon cas aujourd'hui.
Je l'entends, mais c'est pour une heure, monsieur. Voilà.
Donc, pas de problème. Donc, ce métier de secrétaire de rédaction, le nom ne sonne pas très journaliste, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle de plus en plus éditeur, comme on peut avoir un éditeur dans l'édition de livres, mais c'est le même métier. Peut-être plus souvent dans les sites internet, on va appeler ça éditeur, et peut-être qu'en presse écrite, papier, on va appeler ça secrétaire de rédaction. Mais en tout cas, si vous entendez parler d'un de ces deux métiers, c'est le même.
Alors peut-être, là, comme vous travaillez pour ce qu'on appelle un pure player, donc en fait un journal complètement en ligne, Les Jours, peut-être que c'est l'occasion de nous présenter Les Jours que, je fais un peu de retape, vous retrouvez bien entendu dans l'espace presse sur les postes consultables, voilà, puisqu'on a un abonnement pour la bibliothèque.
Voilà. Donc lesjours.fr, c'est un pure player, donc un site effectivement qui n'est pas adossé à un titre papier, comme peut l'être par exemple Mediapart, qui est le grand exemple de pure player, comme a pu l'être Rue 89, qui est maintenant adossé au groupe Nouvel Obs, et comme d'autres, peut-être plus petits. C'est un site qui a 2 ans, c'est un site d'actualité, c'est un site généraliste. Et puisqu'on parlait de Mediapart, qui est un site sans publicité et sur abonnement, comme Mediapart. Donc, c'est en général la balance qui est faite. On n'a pas de pub d'un côté, mais évidemment, il faut bien avoir quelques revenus pour pouvoir travailler, et pour pouvoir produire de l'information, ça a un coût. Et donc, c'est sur abonnement. Avec différentes formules d'abonnement aux alentours de 10 euros de 9 euros par mois, 5 euros pour les petits budgets, 1 euro le premier mois, bref, toute une foule d'abonnements possibles. Et ce choix de ne pas avoir de publicité, c'est tout simplement parce que les fondateurs, dont je ne suis pas, les fondateurs ne le souhaitaient pas. Il y a évidemment de possibles liens d'intérêt, de possibles pressions avec des annonceurs sur les choix des sujets, le traitement des sujets, plus ou moins des pressions plus ou moins directes, plus ou moins éthérées, mais en tout cas, ce serait difficile de dire qu'il n'y en a jamais. On le voit quand des annonceurs retirent de leur argent de plan de publicité dans tel ou tel média, ça peut arriver. Et puis aussi, tout bêtement, c'est une énergie mise dans la recherche de publicité qui n'apporte rien au titre d'information. C'est des gens, c'est de l'énergie, c'est du stress, voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Donc, le but des fondateurs des jours étant de faire du journalisme et rien que du journalisme, pas de pub et que de l'abonnement.
Et on va préciser qu'il y a une forme particulière à ce journalisme.
Tout à fait. La forme particulière, c'est que nous ne faisons pas des articles uniques. Nous fonctionnons par série d'articles, comme des séries télé, et donc avec des séries et des épisodes, qu'on appelle vraiment des épisodes, avec des personnages. Ce sont des personnes qu'on appelle des personnages comme dans les séries télé. Bien entendu, il ne s'agit jamais de fiction, mais on utilise les codes de la série télé avec donc des épisodes, des personnages, des lieux également sur lesquels on va pouvoir cliquer. Il y a un effort particulier qui est fait sur la photographie, la vidéo, voilà. C'est essentiellement du texte, mais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et donc, ce système avec des personnages et des séries qu'on appelle au jour.fr des obsessions. Et les raisons de ce choix sont multiples, mais il y a un côté évidemment addictif, agréable, comme dans une série télé, mais également il s'agit de redonner un peu de liant et de lien aux informations, c'est-à-dire que souvent quand on voit apparaître un sujet dans l'actualité, ben, il y a un hier, il y a un demain pour les gens dont on parle, même pour la thématique, pour le fond. Et donc, on essaye d'être autant que possible sur des sujets d'actualité. On fait vraiment de l'actualité chaude, comme on l'appelle dans le journalisme. Mais on essaye d'être là en amont, d'être là pendant, quand tout le monde y est. Même si nous, on essaye en tout cas d'apporter un peu plus en étant là depuis un petit moment. Et puis surtout, de continuer à être là le lendemain, le surlendemain, un an après, 6 mois après. Voilà, d'être au long. Pour vous donner un exemple, il y a un peu moins de 2 ans, quand on s'est lancé, on avait eu une série sur le procès de la chemise arrachée d'Air France. Et l'enquêteur, le rédacteur qui a travaillé sur ce sujet, a travaillé 3 mois en amont, a commencé à sortir des épisodes avant le début du procès, a sorti quelques scoops en plus, donc c'était pas négligeable, était là pendant le procès, était là au procès en appel, a suivi les différents protagonistes, on pourrait dire, comme dans le monde des séries, a suivi du coup l'avant, le pendant et l'après. D'où le nom Les Jours, évidemment.
Et puis je précise aussi qu'il y avait cette série qui s'appelait Les Revenants, de David Thompson, qui a eu le prix Albert Londres. C'était sur les hommes qui rentraient de Syrie. Et qui s'est inscrit pendant des mois et des mois, des obsessions et des obsessions.
Exactement. Donc là, c'est donc David Thompson, journaliste, qui, depuis des années et des années, est en contact avec des djihadistes français avant leur départ en Syrie et en Irak, pendant leur séjour en Syrie et en Irak, et après, au retour, et donc a mené des entretiens avec eux au long, pendant des années et des années. Et donc, il a sorti sur lesjours.fr cette série Les Revenants, qui suit le parcours d'une petite dizaine de personnages sur 5 saisons. Donc, on utilise aussi le vocabulaire, voilà, comme pour les séries télé, de 5 saisons. Et donc, ce travail a été édité ensuite. On a une collection en partenariat avec Le Seuil. Et ce travail a été édité en livre. Et c'est ce livre qui a été récompensé du prix Albert Londres l'an dernier.
Alors maintenant, revenons à vous, puisque c'est vous qu'on a sous les yeux. Monsieur l'a rappelé tout à l'heure fort gentiment. Nous sommes dans une bibliothèque, donc il y a beaucoup d'étudiants. Quel est votre parcours? Je suis sûre que ça va intéresser bon nombre des lecteurs ici.
Alors moi, j'ai passé un bac littéraire en Auvergne. J'ai suivi des classes prépa, Hippocagne-Cagne, littéraire, une licence de lettres modernes, une inscription en maîtrise de lettres modernes. C'est une façon déguisée de dire que je ne l'ai pas obtenue, car je n'ai pas complété mon cursus. J'ai passé plusieurs fois des concours d'école de journalisme reconnus par la profession. Il y en a une dizaine en France. Et à la fin de cette année de maîtrise de lettres, j'ai intégré l'école de journalisme de Lille pendant 2 ans. Et à la sortie de Lille, j'ai fait un CDD d'été en tant que secrétaire de rédaction à Libération pendant 3 mois. Et ensuite, je suis parti 4 ans et demi à Caracas, au Venezuela, où là, j'ai été rédacteur. Je n'étais pas secrétaire de rédaction. J'étais rédacteur polyvalent, pigiste, indépendant, pour Libération, pour RFI, pour à peu près tous les médias qui voulaient bien travailler avec moi et avec qui je voulais bien travailler. Parfois même des médias qu'on ne connaît pas. C'est la vie de journaliste pigiste à l'étranger. Parfois, on a un média qui vous appelle et qui dit « Est-ce que tu veux bien faire un article pour nous demain ?» Oui, oui, je ne connais pas votre titre, mais vous êtes la voix du Luxembourg. Eh bien, avec plaisir, j'écrirai demain un article sur ce qui se passe aujourd'hui à Caracas. Ça peut arriver. Et à mon retour de Caracas, je suis resté 1 an et demi à Libération de nouveau, cette fois-ci en CDD. J'ai fait un peu tous les statuts, notamment au web de Libération, un peu de portrait, un peu de reportage à l'étranger, un peu de tout. Puis j'ai été secrétaire de rédaction, éditeur au magazine Terra Eco, qui était un magazine de développement durable,
donc
mensuel.
Forcément, on a les exemplaires à la bibliothèque. Hop, je vous en fais passer. Vous voulez montrer
Voilà, c'était un mensuel qui a existé pendant 12 ans, sous différents noms, Terra Economica, puis Terra Eco, basé à Nantes, ce qui est une rareté, un média national dont le siège n'est pas en Île-de-France. Et qui a existé de 2004 à 2016 et qui est mort de sa belle mort, comme il arrive à de nombreux titres de presse indépendante malgré la qualité du travail qui était fait. L'entreprise n'a pas survécu. Et donc là, j'ai été secrétaire de rédaction et rédacteur en chef édition spécifiquement, donc sur l'édition. Et ensuite, on est en avril 2016, donc j'arrive au jour.fr. Voilà, ça c'est le parcours.
Alors justement, là on a sorti, en plus on est encore une fois dans une bibliothèque, donc on a sorti allègrement des livres, des titres. Alors qu'est-ce que c'est être éditeur ?
Alors être éditeur...
Et pourquoi tous ces livres ?
Et pourquoi tous ces livres ? Être éditeur, c'est faire plusieurs métiers à la fois, c'est-à-dire qu'on a un côté pas très drôle, forcément, qui est celui de correcteur. On est les garants de la correction orthotypographique des articles qui sont publiés dans le titre dans lequel on travaille. Donc ça va être des choses tellement réjouissantes comme mettre les bons guillemets au bon endroit, mettre les bons tirets au bon endroit, mettre l'espace ou non avant un signe de ponctuation double. Voilà, ça peut amuser ou pas, ça peut être rébarbatif pour certains ou pas. Voilà. Quand on a un esprit parfois un petit peu obsessionnel, c'est tout à fait plaisant. On se reconnaît entre secrétaire de rédaction et entre éditeur. Voilà. Souvent des gens qui aiment bien ranger leur discothèque ou leur bibliothèque par ordre alphabétique ou par couleur. Ça peut, voilà, on se reconnaît à ce genre de petits détails. Donc ça, c'est le premier niveau, voilà, de faire ça, rendre un article. Une fois que le rédacteur a écrit son article, qu'il a été validé, relu, amendé, corrigé avec le rédacteur en chef, à un moment, le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef nous dit « c'est bon pour nous, il passe à l'édition ». Donc on fait un premier passage pour les bonnes virgules, les bonnes apostrophes, la correction orthographique.
D'où le grévis.
D'où le grévis, exactement. Donc ça, c'est un de nos multiples compagnons de route. Donc c'est un peu plus qu'un dictionnaire, c'est le bon usage. Voilà, c'est un vieux livre. Je pense qu'aujourd'hui, on ne l'appellerait pas comme ça. Mais voilà, des dictionnaires, des... moi, j'ai toujours l'onglet du Robert en ligne ouvert en permanence. C'est ma page d'accueil le matin quand j'arrive et que j'allume mon ordinateur. Voilà, je vais et j'y plonge avec plus ou moins de délices selon les jours, mais j'y passe mes journées. Et on va tout vérifier. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui nous paraissent évidentes, le moindre micro-doute, on va aller le vérifier. Est-ce que je suis quasi absent ou ma quasi-absence, ça va s'écrire de la même façon? Est-ce qu'il n'y a pas un tiret entre les deux quand c'est un nom ou quand c'est un adjectif? Je vais le vérifier. Il y a un nom de famille, il y a un nom propre quelque part, même si bon, Paris, Nantes, Marseille, je les maîtrise. Mais ce matin, j'ai eu un papier où il y avait Clermont-l'Hérault, la ville de Clermont-l'Hérault dans l'Hérault. Est-ce qu'il y a un tiret entre les deux? A priori, oui, mais je vais aller le vérifier. Voilà. Donc ça va être quelque chose de tous les trois mots, ou presque, je vais aller vérifier. Et on laisse quand même passer des erreurs. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une coquille, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vérifié. Ça arrive toujours. Pourtant, on passe notre temps à vérifier. Donc ça, c'est le premier...
Oui, ça, c'est la première grille, on va dire.
La première grille, exactement. Après, en fait, c'est un mouvement permanent de zoom et de dézoom sur le texte. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le zoom le plus précis et le plus grossissant. Et ensuite, ben, on va essayer de prendre un petit peu de recul et de se demander si le paragraphe lui-même, il tient le coup en termes d'information, en termes d'expression, en termes de style. Après, ça va être peut-être un bloc de 2-3 paragraphes. Après, ça va être l'article entier. Puis après, on va replonger dedans. On va faire en permanence ce travail de descendre, monter et se demander si on ne peut pas l'améliorer. Donc, en rajoutant des choses, en étant plus précis. Nous, on a un système au jour.fr. J'espère que vous pourrez le voir sur les postes. On a donc... le texte lui-même qui est en centre de page. Et sur les côtés, on a donc ces fameux personnages, ces lieux, etc. Mais on a aussi des petites notes ou des renvois, des liens, des documents. On a une colonne, une marge avec plein de petites choses en plus. Donc là, ça va être le moment pour nous, les éditeurs, on est deux au jour.fr, de dire bah là, peut-être qu'on pourrait rajouter une petite note qui alourdirait, si on le mettait à l'intérieur du texte, ça alourdirait le style. Mais sur le côté, si quelqu'un veut en savoir plus, eh bien, c'est sur le côté, il va lire les 3 lignes de plus, il y aura peut-être même un autre lien, le lecteur va pouvoir aller cliquer sur autre chose, et donc aller plus loin. Donc l'idée, c'est d'enrichir, d'améliorer, de corriger.
Est-ce que vous réécrivez ?
Ça peut arriver. Alors là, ça dépend beaucoup... De la qualité de la copie de départ, de la qualité de la relecture de la rédaction en chef, qui parfois a le temps, parfois n'a pas le temps. Au jour, on n'est pas un média de flux, donc comme on fait des épisodes assez longs, on en publie 1, 2, 3 par jour, grand maximum. Tout le monde a le temps de travailler. Voilà, c'est des articles assez longs. En général, on tourne autour de 10 à 15 000 signes, ça fait 10 à 15 000 signes, ça fait, pour prendre un exemple dans un journal papier, ça fait bien 3-4 pages quand même. Et là encore, dans ce que je regarde, il y a des grandes photos, donc là il doit y avoir sur ce petit bout là, à l'œil comme ça, je dirais qu'il y a 4500 signes, quelque chose comme ça. Donc ça va être systématiquement des épisodes qui vont faire le triple de ça. Donc voilà, c'est des épisodes un peu denses. Il y a à la fois de l'information, du style, il y a des mots, il y a du gris. Donc là, on peut effectivement réécrire.
Et qu'est-ce qui tranche in fine ?
Ça va dépendre aussi du rapport entre le secrétaire de rédaction, l'éditeur et le rédacteur. S'il est sur place, parfois on peut avoir des discussions plus ou moins animées sur une phrase, sur une accroche, une attaque, c'est-à-dire le début d'un article, sur un point virgule. Je me souviens, il y a de longues années à Libé, quand j'ai commencé, vraiment d'une semi-engueulade avec un rédacteur autour d'une virgule, vraiment, oui ou non, cette virgule-là, on la met, on la laisse, on la supprime, on la déplace, ça peut arriver. En cas de grand, gros, gros problème, c'est le rédacteur en chef qui va trancher. Après, on a un peu de latitude, nous, au jour.fr, c'est pas pour... faire de la flagornerie auprès de mes collègues, mais la copie de départ est vraiment de qualité. Donc c'est vraiment la réécriture, c'est vraiment à la marge. Ça va peut-être être plus un journaliste extérieur ou une journaliste extérieure qui connaît moins nos codes, notre façon d'écrire, où là on va pouvoir modifier peut-être un petit peu quelque chose. Mais de la réécriture de A jusqu'à Z, ça a pu m'arriver à Terra Echo, mais au jour.fr, non.
Et là, vous parliez de Libé, ça fait une transition toute trouvée pour les titres.
Tout à fait.
Ce qu'on appelle la titraille, c'est ça ?
Exactement.
Et qui fait la titraille ?
La titraille, c'est l'édition. Donc, c'est nous, les éditeurs, qui nous occupons des titres. Alors, la titraille, c'est la partie la plus...
Peut-être on peut montrer qu'il y a différents niveaux.
Voilà. Ce n'est pas que le titre. Donc, vous allez avoir, selon les titres de presse, titre, surtitre, sous-titre, chapeau, intertitre, légende, mots-clés, notes, titre d'encadré. Voilà, il y a eu toute une variété d'éléments de titraille. Il n'y a pas que le titre. Mais ça, c'est la partie, après la partie un peu rébarbative d'être un petit correcteur sur pattes à mettre les bonnes virgules et les bonnes apostrophes. Là, c'est la partie un peu plus expressionniste, où on va essayer de donner envie, tout simplement dans le titre en tant que tel, de donner envie au lecteur de venir lire l'article qui est dessous. Et d'autant plus, c'est d'autant plus important que nous, au jour.fr, on est sur le web. Quand vous avez un Libération, un Parisien entre les mains, après tout, vous avez un objet entre les mains. Donc... faire passer. Vous pouvez avoir envie ou pas envie de lire l'article, mais en tout cas, le journal, vous l'avez déjà. C'est un objet fini, il tient dans votre main. Vous allez feuilleter dans n'importe quel ordre, en diagonale, de la fin vers le début, en commençant par les pages sport, l'horoscope ou la politique, ce que vous voulez, mais vous l'avez. Nous, sur Internet, on est dans le flow, on est entre un compte Facebook et un jeu en ligne. Tout ça est mis au même niveau. Donc, il faut effectivement arrêter en quelque sorte l'œil de l'internaute. On a envie, on essaye de lui faire ça, de l'arrêter et de lui faire cliquer sur notre article pour qu'il lise les articles dont on est très content et tellement fier et qu'on voudrait qu'il lise parce qu'on pense qu'il va en plus apporter au lecteur quelque chose. Alors, c'est sûr que nous, on est sur abonnement. Donc, c'est peut-être moins fort que certains titres où on sent que parfois, on va dire ça poliment, l'écart entre le titre et le contenu de l'article est peut-être un peu grand, où on s'est quasiment senti, où le clic a été presque forcé, on s'est dit, ah, c'est presque la partie reptilienne du cerveau qui a cliqué sur tel ou tel titre en bas d'un article parce qu'il y avait quelque chose de très très attirant. Et qu'après, on va peut-être être déçu. Nous, c'est un peu moins le cas. Mais malgré tout, on essaye de donner envie. Donc, il y a plusieurs grandes sortes de titrailles. La titraille la plus simple, répandue, c'est la titraille qu'on appelle informative. Ça va être le cas du Parisien. Ou si je prends un titre au hasard... Hop. Ben, même directement sur la une, là, je vois musique, ça c'est un mot-clé, musique, Charlotte Gainsbourg veut un musée pour son père. On a l'information en tant que telle, quasiment on a peut-être envie d'en savoir plus, mais au moins on a l'information. On a Charlotte Gainsbourg veut un musée pour son père, alors c'est sûr que là on ne précise pas, on n'a pas la place de préciser qui est le père de Charlotte Gainsbourg, où est-ce qu'elle le veut, pourquoi elle le veut, voilà. Mais on a l'information. Ça c'est la titraille informative. Après on a une titraille que l'on va appeler incitative, où l'information ne sera pas complète, sera moins précise, mais qui va faire appel alors souvent à un jeu de mots ou à une référence culturelle, à quelque chose où on se dit, ah tiens, il se passe un petit quelque chose, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais moins de quoi ça parle, mais ça me fait semi-sourire, on se dit, tiens, il y a une petite accroche, voilà, et qui va peut-être, on espère encore une fois, donner envie au lecteur de cliquer.
Ça, c'est un peu la marque de fabrique de Libération.
C'est la marque de fabrique de Libération. Et comme 8 des 9 cofondateurs des Jours sont des anciens de Libération, ils ont gardé ce lien très fort à l'édition, déjà à l'importance de l'édition qui était le cas à Libération, pas que pour les titres, mais aussi pour le travail qui est fait sur le texte. Et en l'occurrence, garder cette titraille incitative avec des jeux de mots, pas de calembours exactement, mais des jeux de mots. Les calembours, c'est où vraiment on va tordre des mots. Ça, on le fait peut-être, nous, au jour.fr. Comme le canard, exactement. Nous, on le fait moins que le canard, on le fait même quasiment pas. On fait du jeu de mots, de la référence culturelle, voilà. Alors après, c'est un pari, cette titraille incitative. Parce que justement, s'il y a une référence culturelle, il y a une espèce de pacte avec le lecteur. On parie sur le fait que le lecteur va connaître ou va tiquer un peu en se disant « Tiens, cette référence-là, je l'ai prêt, ça me dit quelque chose. » Mais si vous ne l'avez pas du tout, ça peut faire un flop aussi. C'est un pari. Voilà. Là, j'ai, je crois aussi, des numéros de Télérama.
Ouais.
Télérama pratique également la titraille incitative. Alors, je vais essayer de trouver au hasard un jeu de mots de Télérama. Le premier, là, sur Higelin, c'est la fantaisie héroïque. Je pense que c'est un clin d'œil à la symphonie héroïque. Du coup, il va y en avoir. Alors, plus ou moins élégant, plus ou moins réussi, plus ou moins raté, plus ou moins racoleur, plus ou moins, voilà, même dans la titraille incitative, on peut avoir aussi tous les degrés de pertinence, d'impertinence, de réussite, de ratage complet, voilà. C'est sûr qu'en faisant Charlotte Gainsbourg veut un musée pour son père, a priori, on ne prend pas de risque, et c'est tout à fait valable. C'est évidemment en fonction, encore une fois, du pacte avec le lecteur. Le Parisien est un journal plus grand public, ou en tout cas avec une communauté, je dirais, de lecteurs peut-être moins spécifique que Télérama, que lesjours.fr, que Libération, où il y a une communauté de pensée et au moins de références culturelles communes.
Et alors, pourquoi Eugène Sue et Albert Londres? Bon, Albert Londres, il est quand même...
Oui,
hop.
Bon. Là, c'est plus sur le côté feuilleton, puisque là, on parlait de séries, mais en fait, j'ai beaucoup parlé de ces références aux séries télé, mais c'est quand même pas une grande nouveauté, finalement, de la presse ou de la littérature en épisode, en feuilleton, où on mélange à la fois du fond et une forme qui marche sur des ressorts, somme toute, pluriséculaires, du suspense, de l'envie d'en savoir plus, l'envie d'aller plus loin. En ce moment, il y a toute une gamme de médias qu'on catalogue dans les slow médias, les médias lents, avec une production plus lente, de qualité, mais parfois aussi un peu détachée de ce qu'on appelle l'actualité chaude, de celle qui remplit les journaux radio, télé au jour le jour. Lesjours.fr, c'est pas tout à fait du slow média. On produit pas énormément. C'est plutôt du journalisme, en tout cas on essaye, on pourrait dire, en reprenant un anglicisme, deep, profond, plutôt que slow. Voilà, on essaye d'aller gratter, de pas lâcher un sujet, de l'accompagner parfois pendant plusieurs années. C'est le cas depuis le début des jours, depuis 2 ans. Il y a notamment une série sur Vincent Bolloré et Canal+. C'est une série que les deux auteurs de cette obsession suivent depuis 2 ans, et ils ont juré de ne lâcher l'obsession que quand Vincent Bolloré lâcherait Canal+ en 2021. Voilà. Donc ils ont encore 3 ans devant eux. Voilà. Ça pourrait être une série qui durera 5 ans. C'est possible.
Et notre ami Eugène ?
Alors, notre ami Eugène, roman Les Mystères de Paris, à la fois roman feuilleton, donc du plaisir des choses rocambolesques, malgré tout, il se passe des choses, plein d'anecdotes, plein d'événements qui servent plus ou moins la trame centrale du roman, mais qui malgré tout tiennent en haleine le lecteur. Et puis roman social également, puisque lesjours.fr, on essaye de ne pas faire que de la forme, on fait du fond. Un peu du et en cela on revendique de ne rien réinventer, c'est-à-dire que on fait du travail au long, autant que possible honnête, social, c'est-à-dire en suivant notamment des corps de métier, en suivant des générations. Ça fait 3 ans là qu'on suit des élèves. Alors, c'est un grand classique hein, finalement de suivre des élèves dans des écoles pendant le temps long. On a fait une première année avec des collégiens, une année avec des lycéens en lycée pro. Cette année, on est à la fac de Nanterre, ce qui tombe plutôt bien, là encore une fois, où l'actualité rejoint cette intuition qu'on a eue en septembre dernier en se disant, tiens, et si on s'installait à Nanterre pour l'année universitaire, on va continuer à faire des choses sans doute en école primaire l'année prochaine. On va redescendre au niveau âge. Voilà, on fait de l'immersion. Sans forcément d'actualité chaude qui fait la une des quotidiens nationaux en permanence. Mais là, on suit des cheminots en ce moment. On a pu suivre un quotidien dans une agence Pôle emploi à Montargis. Voilà, du coup, du roman social où on raconte la vie, tout simplement, en toute modestie. Mais on essaye de raconter la vie, notamment professionnelle, des Français.
Alors, on a un micro, voilà, pour commencer, pour faire circuler parmi vous, si vous avez des questions, avant qu'on s'attaque un peu au bloc. C'est quoi une rédaction? Comment ça se passe dans la rédaction des jours? Mais déjà, si vous avez des questions, profitez de François. Des questions sur le parcours, sur ce que vous nous avez expliqué de l'éditeur, de ce binôme avec le journaliste, de la réécriture. Bon, je sais que la première question coûte, mais il faut se lancer. Mais là, on est entre nous. Bon, sinon, je vais... N'hésitez pas, en tout cas, à lever la main en cours si vous vient des choses. Voilà, on avait prévu un... Non, c'est juste pour passer un... Oh, vous m'avez fait un faux espoir. Donc, ben justement... Ah.
Je voulais vous demander quels sont les moyens de financement de Les Jours par rapport à Mediapart, là. Est-ce que vous êtes totalement indépendant? Ah, pardon, excusez-moi.
C'est pareil.
Je voulais vous demander quels sont les moyens de financement Les Jours par rapport à Mediapart, là.
Alors,
c'est bon. Merci.
Alors, j'espère ne pas trop me tromper dans les chiffres et les virgules, mais à plus de 85%, si je ne m'abuse, le capital des jours.fr appartient à ces 9 cofondateurs. Et en gros, la quinzaine de pourcents qui reste se divise entre des actionnaires privés, parmi lesquels... Comme pour Mediapart, il y a Xavier Niel. C'est le seul, je pense, investisseur très connu, disons, qui investit dans d'autres titres de presse, jeunes, etc., etc., qui est présent. Et à terme, l'idée, c'est de maintenir le plus haut possible, évidemment, grâce aux abonnements, justement, avec ce choix du modèle économique par abonnement et uniquement par abonnement, de maintenir les cofondateurs à un niveau le plus élevé possible, qui ne descendra jamais sous 50%. Telle est, en tout cas, la promesse de départ.
Donc là, tout à l'heure, vous nous disiez que l'objectif, c'est d'ici 4 ans d'avoir suffisamment d'abonnements.
Oui, d'avoir suffisamment
pour être en ligne de flottaison. En fait.
Exactement, puisque comme pour tout jeune média, ben, on part pas avec on part pas avec un nombre d'abonnés suffisant, avec un même pour les gens d'ailleurs qui font de la pub, hein, qui ont de la pub dans leur colonne ou dans leur site internet, personne ne part à l'équilibre. Et puis la presse, c'est pas un secteur en général où on fait fortune. Et il y a beaucoup de titres de presse qui naissent chaque année, mais aussi beaucoup qui meurent. Donc là, aujourd'hui, on tourne autour de 10 000 abonnés, ce qui est bien en 2 ans. Et l'objectif est autour de 15 000 abonnés. Donc il en reste. Allez-y. Je vous encourage à être de ces 5 000 abonnés si vous ne l'êtes pas, manquant si vous ne l'êtes pas encore. Et autour de 15 000 abonnés, du coup, là, c'est la ligne effectivement d'équilibre du média. Alors, donc là, ça fait 2 ans. C'est ni. Enfin, on ne transpire pas à grosses gouttes. Voilà, c'est logique dans le lancement d'une nouvelle entreprise qu'au départ, ça ne soit pas encore à l'équilibre.
Parce que vous êtes combien de salariés là, enfin je veux dire entre le comité de rédaction, les rédacteurs?
Alors on est une quinzaine de salariés à plein temps au jour.fr et on fait travailler en plus quelques dizaines de photographes, quelques dizaines de rédacteurs, pigistes et indépendants. Sur les chiffres exactement, voilà, je dois les avoir sur une jolie plaquette quelque part. Mais voilà, du coup on est une quinzaine de titulaire à plein temps fixe et donc tous les jours on produit donc des articles qui peuvent être écrits par la dizaine de rédacteurs. Sur les 15, il y a à peu près une dizaine de rédacteurs et aussi on va passer commande, s'entendre avec des journalistes indépendants sur des séries. David Thompson par exemple n'est pas qui a fait les Revenants n'est pas un des titulaires en poste des jours.fr. Pour la photo c'est exactement le cas. Sébastien dans quelques jours à cette place même on parlera mieux, beaucoup mieux que moi, mais lui il fait travailler donc des journalistes, des photojournalistes, des photoreporters indépendants également. Il y a une production propre au jour.fr, ce qui est assez rare aujourd'hui dans la presse internet où en général on récupère des choses d'agence quand on a un budget, et encore parfois on prend ce qu'on peut en gratuit entre guillemets sur Wikipédia et sur Flickr. Ça arrive aussi régulièrement. Là, il y a un budget spécifique pour la photo, un budget spécifique pour l'édition avec ma collègue, ce qui est assez rare aussi dans la presse web.
Et pour le néophyte, 15, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup pour une rédaction?
C'est peu par rapport à... Alors, je me souviens plus exactement, mais à Libération, il y a, je pense, aux alentours entre 150 et 200 cartes de presse, je pense. Voilà. Du coup, l'écart est grand. Mediapart, je pense qu'en tout, il doit être une petite centaine, mais avec une moitié de journalistes. Je ne préfère pas trop m'avancer sur ces chiffres-là, mais en tout cas, voilà, ils sont beaucoup plus gros que les jours.fr pour le moment, ça c'est certain. Donc nous, c'est encore une petite équipe en construction. On espère bien continuer à grossir tranquillement, mais sûrement.
Alors, je précise simplement que le 23 avril, il y aura une table ronde sur ces questions économiques, enfin justement ces nouveaux modèles économiques. Et donc, on parlait des jours. Ce qui m'intéresse, enfin, j'aimerais bien savoir voilà, la rédaction, parce que c'était ça aussi un peu l'idée. On va ouvrir la boîte, comment ça se passe. Et justement, pour d'abord la politique éditoriale, vous nous avez un peu parlé voilà, des faits de société, etc. Mais est-ce qu'il y a des sujets de prédilection, des choses que vous ne traiterez pas? Enfin, j'en sais rien. C'est vraiment une question de néophyte, encore une fois. Parce que là, quand même, je souligne que c'est une bibliothécaire qui interviewe un journaliste. On a un peu inversé.
Alors, sur la question des sujets qu'on ne traiterait pas...
Ou est-ce que vous avez des axes de prédilection?
Oui, des axes
pour,
de prédilection.
Justement, parce qu'il y a quand même une pléthore de médias. Sujet. Donc, il faut... et puis, d'autres titres. Donc, il faut peut-être trouver aussi sa place. Outre une forme, sous forme de feuilleton.
Tout à fait, oui. Il n'y a pas qu'une forme. Si on n'était qu'une forme, c'est sûr que ce serait pauvre comme offre, finalement. Parce qu'une série télé ou un feuilleton, il y en a des très mauvais. Et il y a des très mauvais feuilletons, il y a des très mauvaises séries télé. Donc on essaye de ne pas être dans cette catégorie-là. Je dirais qu'il y a, outre les séries d'immersion, comme celle dont j'ai pu parler, il y a toute une... on tient en permanence à avoir une série, d'avoir plusieurs séries autour de, je dirais justement, des coulisses, comme là, on essaie de dévoiler un peu les coulisses des jours.fr, avec notamment une journaliste d'investigation qui s'appelle Aurore Gorius, qui a fait déjà 3 séries, une qui s'appelle Les communicants, une qui s'appelle Les conseillers, et une qui s'appelle Les lobbyistes. Donc elle est sur le monde politico-économique. Et donc, l'idée, c'est d'aller un peu gratter derrière, aller voir derrière le rideau. Elle a fait voilà, les communicants pendant la campagne. On essaye de l'insérer après dans l'actualité. Donc elle a fait les communicants pendant la campagne de la présidentielle de l'an dernier. Les conseillers au moment de la mise en place du nouveau pouvoir. Et aujourd'hui, les lobbyistes. Et finalement, en fait, les lobbyistes, un peu comme dans certaines séries où on va avoir... un personnage autour duquel on va créer une autre série, un spin-off, appelle ça. Elle a fait plusieurs articles dans la série Les Lobbyistes sur l'affaire du Levothyrox, qui agite un peu l'actualité depuis quelques mois. Et donc, en fait, elle a commencé à sortir quelques scoops sur le Levothyrox, des conflits d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques, ce genre de choses. Et donc, on a décidé, par exemple, là, c'est le côté réactif, de créer une série spécifique, en fait, sur l'affaire du Levothyrox. Donc ça, voilà, essayer d'aller gratter derrière. On n'est pas uniquement un média d'investigation, mais c'est un des axes principaux. On veut vraiment qu'il y ait de l'investigation en permanence, sortir des informations, des scoops, voilà. Je vous parlais tout à l'heure de la série sur Canal+ et Vincent Bolloré. Un certain nombre de scoops sont sortis dans cette série qui s'appelle L'Empire et qui est écrite par Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts. Là aussi, voilà, il y a des scoops qui arrivent. Et bizarrement, en fait, les scoops arrivent plus facilement quand vous travaillez sur des sujets depuis 6 mois que depuis 6 jours. Donc forcément, il y a des contacts qui se font, des liens, des gens qui sont dans l'entreprise, qui lisent ces articles et qui contactent les journalistes qui sont en train de travailler là-dessus. Donc voilà, il y a un aspect investigation qui est assez fort. Après, on reste relativement généraliste. On a des séries sur le sport, on a des séries sur l'écologie, on a des séries sur l'économie. Alors là, sur l'économie, tropisme aussi peut-être, roman feuilleton, roman social. On s'intéresse notamment au plan social chez SFR aussi aujourd'hui. Alors pendant, voilà, des choses sur le temps long. Un plan social, ça dure longtemps. Un plan social, c'est souvent un peu douloureux, même très douloureux. Il y a le moment où c'est annoncé, il y a le moment où il est fini et où les gens partent. Mais en fait, il y a le temps entre les deux, il y a le temps d'après aussi. Une fois que les gens ne travaillent plus dans cette entreprise, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'on, même le ressenti vis-à-vis de son travail, de son utilité, parfois d'un écœurement vis-à-vis de l'entreprise ou du monde du travail. Voilà, ça fait partie des choses...
Et dans le style, parce que vous êtes éditeur, donc est-ce qu'il y a une ligne force dans la façon dont le récit, vous le menez ?
Alors, le grand, je dirais que c'est pas dans absolument toutes les séries, mais le gros point, c'est qu'on ne s'interdit pas, comme classiquement dans le journalisme un peu à l'ancienne, la première personne du singulier, le rédacteur. Justement, il vit avec ses personnages, avec des gros guillemets, hein, mais il vit depuis des mois, depuis des semaines avec eux. On s'est dit que c'était un peu ridicule de continuer à faire des... avons-nous appris de sources, voilà, c'est pas grave. Et en plus, c'est vrai qu'il y a la presse internet a permis un petit peu un changement autour de ça ces derniers temps. Le journaliste, sans forcément se mettre en avant et se mettre en scène, mais juste parfois il a des informations, il y a quelqu'un qui va lui répondre à lui spécifiquement comme ça. Et parfois, ça apporte quelque chose au lecteur, même s'il n'était pas là, même s'il ne connaît pas le journaliste, même s'il ne connaît pas la personne interviewée. Dire « je », ce n'est pas le mal en soi. Ça peut être pénible, moi, je trouve, notamment parfois dans l'audiovisuel, où on va voir le journaliste qui est au centre de l'image et la personne interviewée quasiment au bord du cadre. Mais ne pas faire comme si le journaliste n'existait pas. Voilà, il existe. Parfois, il arrive avec ses a priori, avec ses clichés. Ça non plus, en tant que tel, ce n'est pas forcément grave. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ce cliché ? Est-ce qu'on le dit ? Est-ce qu'on arrive avec son image de tel ou tel milieu en disant bah, on pourrait penser que, ou je pouvais voir, je pensais que, et en fait non, et en fait oui, et ça plus précisément. Voilà. On revendique une subjectivité voilà, qui s'inscrit dans ces deux lettres, je. Il y a du je dans lesjours.fr.
Et alors le choix des sujets ? Comment ça se passe ?
Alors, le choix des sujets, il y a eu un changement. Pour tout vous dévoiler des coulisses des jours.fr, comme je vous disais, les cofondateurs 8 sur 9 venaient de Libération, où évidemment, un quotidien, il y a une réunion, une conférence de rédaction tous les matins. Et au début des jours, on faisait une conférence de rédaction tous les matins. Comme ils avaient fait, eux et moi aussi beaucoup, à Libération et dans d'autres médias, tous les jours, une réunion tous les jours. Et comme évidemment, on ne lance pas une nouvelle série d'articles tous les jours. Malheureusement, peut-être un jour, on créera une nouvelle série tous les jours, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'allais dire les trois quarts du temps, mais en fait, 95% du temps, on se disait, OK, on faisait une réunion, vous voyez les sujets du journal.
Une réunion avec tout le monde ?
Avec tout le monde, oui. Bon, une quinzaine, c'est encore faisable autour d'une table. Et tous les sujets qu'on avait pu entendre à la radio le matin, qu'on avait vu le journal ou entendu. Presque jamais, en fait, on sortait une idée de série parce qu'on se disait c'est pas inintéressant ce sujet-là, mais c'est pas pour nous. C'est pas pour faire du temps long, c'est pas pour faire du journalisme profond. Parfois aussi, il faut être honnête, on avait bien envie, mais on n'avait pas forcément les moyens humains. Chacun avait déjà sa série, on va pas en faire chacun cinq non plus. Donc maintenant, on en fait moins, des réunions. Elles sont plus constructives et souvent, on sort plus des idées de série, quitte à les faire peut-être pas le jour même, peut-être pas les faire en interne. Parfois, on se dit, tiens, tel ou tel rédacteur pigiste qui travaille avec nous depuis un moment, ça peut-être l'intéresser. C'est le cas notamment là en ce moment, donc on a lancé une série sur les cheminots. C'est une rédactrice indépendante qui le fait. Et là, c'est venu de nous. C'est venu de la rédaction. On l'a appelée. Ça a collé. Ça l'a intéressée. Elle était disponible. Les conditions financières lui convenaient, puisqu'il y a tout ce genre de négociations, évidemment, à mener. Parfois, on se dit, ça sera bien, mais ça sera dans 3 mois. Alors, ça peut être parce qu'il y a un événement, je ne sais pas. Là, on n'a pas encore de série sur la Coupe du Monde de foot en Russie, et peut-être qu'il n'y en aura pas. D'ailleurs, on assume le fait de se dire tout le monde en parlera et nous, non. Peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on en fera. Là, pour le moment, on n'en a pas encore de prévu. Parfois, il y a des choses comme ça qui sont prises plus ou moins en amont.
Et si vous n'êtes pas d'accord sur des sujets qui tranchent ?
La rédaction en chef.
Ils ont double vote.
On ne vote pas. On ne vote pas à main levée, il y a souvent un consensus. Il y a souvent un consensus. La situation la plus délicate, c'est que la rédaction en chef, c'est un binôme, à la tête des jours.fr, donc ils sont deux. Ils devraient être un nombre impair, mais ils sont deux. Le problème, c'est quand l'un est d'accord et l'autre pas, effectivement. Et là, ils règlent ça entre rédacteurs en chef, Raphaël et Alice, se mettent dans un petit coin et ils en ressortent avec une décision. Voilà, il y a la fumée blanche ou la fumée noire qui ressort pour faire ou non cette série. Mais voilà, il y a une rédaction en chef qui tranche. Ça peut venir, du coup, donc les sujets peuvent venir d'un rédacteur. Que ce soit pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Ça peut venir de ma collègue Lucille, qui est éditrice comme moi, comme de moi. Même si on sait pertinemment que ce n'est pas nous qui allons écrire la série, ça, ce n'est pas un problème. Et puis, ça peut venir directement de rédacteurs indépendants, pigistes, qui envoient un mail, qui font une proposition. Ça peut arriver, c'est arrivé. Il a fallu peut-être que plus que dans d'autres médias un petit temps d'adaptation justement à la forme des jours.fr. Il y a encore aujourd'hui, mais de moins en moins, des journalistes qui nous proposent un très gros article ou une très grosse enquête. Et on leur dit oui, très bien, mais nous on a besoin d'épisodes. C'est-à-dire que si... Ok, je peux la couper en deux. Ouais, non, deux épisodes, même deux épisodes, en fait. Et surtout, est-ce que tu es là avant, pendant, après ? Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des personnages qui vont pouvoir venir, des lieux ? On a également des onglets avec une bande-son. Alors, tout ne va pas jouer s'ils ont une très bonne bande-son sonore dessus. Mais voilà, il faut prendre en compte, effectivement, la spécificité de la forme des jours.fr. Ce sont des séries. Et on ne traite pas tout. Et ça, c'est pas grave.
Et c'est aussi cette forme en ligne où je me posais la question de la périodicité, parce qu'un hebdo, un quotidien, on sait, mais là, combien vous publiez, comment, à quel rythme, comment ça se passe ?
Alors, on publie tous les jours. Ça serait quand même dommage qu'un média qui s'appelle Les Jours ne publie pas tous les jours. Donc, on est un quotidien en ligne. On met en ligne à minuit 5, pour, là encore c'est les coulisses, à minuit 5, un article tous les jours qui sera dans notre newsletter, qui est un de nos vecteurs pour faire connaître nos articles, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui sont abonnés à la newsletter que de gens qui sont abonnés au site en tant que tel. Du coup, on fait un effort sur cette newsletter qui est éditorialisée, écrite spécifiquement. Et donc ça, c'est le minimum, ça va être le minimum syndical, ça va être donc un article par jour. Parfois, on en a deux, parfois on en a trois. Parfois, en cas de très grosse actualité, notamment politique l'an dernier, en 2017, les soirées électorales, on va faire moins d'articles que le monde.fr. Hein, mais on a pu mettre en ligne dans la soirée 7 ou 8 articles sans aucun problème. Voilà. Du coup, il y a une périodicité un peu lâche. Minimum 1, maximum 8. Je pense que ça doit être le record pour, je pense, le second tour de la présidentielle. Mais en fonction de l'actualité, là, aujourd'hui, on a eu, par exemple, un article ce matin qui était publié à minuit 5, qui était l'article du matin pour les lecteurs habituels qui se connectent voilà, en arrivant au travail ou en se levant ou dans les transports en commun sur leur téléphone. Sur l'application ou sur le site. Et à 13h, il y a eu un épisode en direct, puisqu'on peut faire, comme encore une fois, comme dans les séries télé, un épisode en direct qui s'enrichit petit à petit pendant l'interview d'Emmanuel Macron par Jean-Pierre Pernaut. Donc voilà, là, il y a eu un article qui a été mis à jour toutes les 10 minutes. Voilà, un article en direct. On a une série sur le procès d'arnaque dont la décision a été rendue ce matin. Donc il y a eu un article à 14h, qui nous a été rendu à 14h, donc mis en ligne vers 16h, je pense. Donc aujourd'hui, on en a eu déjà trois. Peut-être que demain, il n'y en aura qu'un ou deux. On essaye globalement quand même, le 1, c'est le minimum. 2, c'est bien. 2, c'est bien.
Et une question un peu naïve, mais est-ce qu'il y a un public visé ? Est-ce que...
Non. On est ouvert à tous, on est grand public, c'est sûr. Ce que les statistiques d'abonnement nous montrent, c'est que dans l'autre sens, nous, on fait une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on n'a pas marketé, enquêté sur telle tranche de la population, justement ce que peuvent faire, sont obligés de faire, entre guillemets, les médias avec de la pub. Ils voudraient peut-être mieux parler au CSP+, parce qu'ils ont plus d'argent et du coup, ils achètent plus de voitures et comme on a des pubs de voitures, tout ça va bien ensemble. Nous, c'est pas notre cas. Du coup, on offre quelque chose. On se dit que ce qu'on fait, on espère, est de qualité et peut intéresser des gens et peut apporter des choses à notre lectorat. Et vient qui peut. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que presque 50% de notre lectorat a moins de 35 ans. Il y a évidemment le côté en ligne, le côté notamment sur les téléphones portables ou les tablettes. Mais dans la presse aujourd'hui, ce genre de statistiques, de pourcentage, c'est assez rare. Voilà, on a un public très jeune et il s'avère que c'est un public qui, en général, est plutôt friand de presse et d'actualité. Souvent, c'est un public qui lit d'autres titres. On n'est pas en train de remplacer un quotidien national. C'est sûr, les jours.fr ne vont pas racheter Le Monde après-demain. L'année prochaine, je ne dis pas, mais après-demain, non. Voilà, on est une offre différente, peut-être partiellement de complément, mais une offre différente, mais une offre. Voilà, on ne répond pas à une demande, on est un média d'offre. Et pour revenir sur le côté annonceur, on peut aussi se permettre justement de faire des séries sur des secteurs qui sont presque tenus par les annonceurs, notamment on a fait une série sur les cosmétiques. Et bizarrement, c'est un sujet sur lequel la presse, notamment féminine mais pas que, enquête très peu, parce que c'est un très 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 gros annonceurs et aller gratouiller dans ce secteur-là, c'est pas une bonne idée business quand on a plein de pages de pub dans son magazine. Nous, on s'en fiche et au contraire, ça nous intéresse, donc on l'a fait.
Du coup, comme je vois que l'heure tourne, je me retourne à nouveau vers vous pour savoir si vous avez des questions, voilà, des précisions sur ce métier d'éditeur, sur les jours, sur la rédaction, sur la presse en ligne qui finalement n'est pas si fréquente. Enfin, je veux dire, quand c'est du numérique natif, enfin, que c'est que de la presse en ligne. Alors moi, j'aurais une question. En fait, bah, pour revenir à... Pour une fois qu'on a un éditeur sous la main, justement, pour une question sur l'évolution de votre métier, parce que j'ai lu, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait, que vous êtes en voie de disparition. Donc, quel avenir et pourquoi, d'ailleurs, en voie de disparition, même si je me doute un peu de la réponse, mais...
Les éditeurs en particulier, bah parce qu'on coûte de l'argent et qu'on ne sert à rien, bien sûr. Non, effectivement, il y a eu d'abord la première vague qui a été la quasi-disparition dans les titres de presse des correcteurs, des personnes qui sont des correcteurs professionnels, qui, même si nous, on fait ce travail de correction orthotypographique, sont bien plus compétents que nous. Il y a des formations à la correction, il y a des correcteurs professionnels qui, aujourd'hui, trouvent malheureusement beaucoup plus du travail encore du côté de l'édition de la littérature et des livres.
Il y a
pas mal de mouvements sociaux de leur côté. De fait, les secrétaires de rédaction ont absorbé ce travail-là dans les titres et effectivement, dans une économie globale de la presse qui est plutôt en piteux état et mal en point et qui ne s'améliore pas, bah on essaye de, on va pas directement supprimer le poste du rédacteur qui sort des scoops tous les deux jours. On va plutôt supprimer les postes de secrétaire de rédaction, effectivement. Donc c'est pas un secteur forcément très en vogue. Après, des médias sans secrétaire de rédaction, en toute modestie, ça se voit.
Ça se voit. Hein.
Ça se voit quand il y en a et ça se voit quand il y en a pas. Voilà. Même si j'ai souvent l'habitude de dire que notre métier à nous, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas visible, justement. Si un lecteur lit un article du début jusqu'à la fin, qui se sente en quelque sorte pris par la main du début de l'article, qu'il est propre, c'est-à-dire qu'il est sans erreur orthotypographique, qu'il a un style fluide et qu'on apprend des choses et qu'on a envie de le lire en entier, c'est que nous, on a fait notre job correctement. Mon image cliché est celle du bassiste dans un groupe de rock. C'est-à-dire que si quand il est là, globalement, derrière la guitare, le chanteur et la batterie, on l'entend pas beaucoup. Mais quand il n'est pas là, ou quand elle n'est pas là, la bassiste, c'est un peu bancal. Voilà. Donc sur l'évolution, malheureusement, il y en a encore beaucoup. On n'est pas tout à fait mort. Il y en a et il y a des jeunes titres comme lesjours.fr qui se disent que c'est important de mettre en quelque sorte la qualité papier qu'on associe plus facilement avec de la presse papier, de la photo, de l'édition, du souci du titre dans de la presse internet. Et peut-être que ça va créer un mouvement que on arrêtera les sites internet faits sans budget pour la photo, en 5 minutes, écrits comme ça en se disant c'est pas grave, de toute façon un article en remplacera un autre. Voilà, ça, je le souhaite en tout cas.
Oui, parce qu'il y a quand même une spécificité d'internet, c'est que normalement on dit qu'il faut que tout soit court.
Oui, il y a eu ça, il y a encore ça depuis voilà, la presse internet, les gens n'aiment pas lire, ne veulent plus lire, donc ils veulent lire court. En fait, on peut prendre, et c'est ce que les jours ont fait, et ce que d'autres titres, même en papier, ont choisi de faire, on peut prendre le contre-pied inverse. C'est vrai, moi-même, je lis des brèves sur l'équipe.fr le matin dans le tramway. C'est vrai. Il y a une part de chacun d'entre nous qui lisons des choses courtes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, à d'autres moments, peut-être dans d'autres contextes, envie de choses longues, profondes. Je sais pas, en presse papier, l'exemple de 21 approuvé, ils sortent des articles de 15 ou 20 pages et ils ont trouvé leur lectorat. Il y a du temps pour tout et on a du temps parfois pour effectivement lire, cliquer sur la vidéo de Ronaldo qui fait une bicyclette. Et il y a des moments où on a du temps pour lire pendant 3 heures de suite une série immersive avec des collégiens pendant un an. C'est, y a pas d'obligation de le web, c'est court. Non. C'est, Non.
Parce qu'en fait, c'est enregistré.
Je voulais vous demander, dans votre rédaction, c'est la question de parité est résolue.
Ça se résout pas. C'est pas une, c'est pas un problème quand elle existe. En termes d'effectifs, je compte dans ma tête. Pas tout à fait. En termes d'effectifs, je crois qu'il y a plus d'hommes. Ouais, un petit peu plus d'hommes que de femmes. En termes de management, donc sur la rédaction en chef, ils sont deux, il y a un homme et une femme, et à la présidence, nous avons une femme. Voilà, ce qui est rare. Voilà. Mais sur les effectifs, pas encore. Donc, on ne lâche pas, et c'est particulièrement bien vu et su en interne, ce genre de questions. Voilà.
Alors peut-être avant de nous quitter, ça vous permettra de réfléchir à des questions, en tout cas trouver le courage de la poser. Est-ce que vous auriez une idée force à transmettre au public par rapport à cette question de défiance des médias? Enfin, j'en sais rien, quelque chose à...
Que moi, je veux pas... Souvent, c'est un grand classique, hein, y a beaucoup de métiers comme ça dans les soirées... C'est un métier qui fait parler, le métier de journaliste, en général plutôt en mal. Quand je dis que je suis journaliste dans une soirée où je ne connais personne, ça ne m'est pas arrivé que des gens me disent « Ah, journaliste formidable, quel métier merveilleux, les gens font tous formidablement leur métier. » Moi, je n'ai pas de problème avec les critiques envers les journalistes en général, voire les médias. Je ne défends pas les médias ni les journalistes. Par contre, je pense qu'il y a une vraie utilité de la presse et du journalisme et des médias. Mais je rajoute à chaque fois de qualité. Voilà, il y a des médias plus ou moins bons et c'est pas grave. En quelque sorte, il y a aussi des garagistes plus ou moins bons. Voilà, moi je conseille les garagistes de qualité et... Si je tombe sur un garagiste, je ne vais pas lui dire « Vous êtes tous nuls ». Non, j'en ai un. Moi, le mien est très bien. Et je le conseille à mes amis. Voilà. Donc, je conseille des médias de qualité à mes amis. Et puis, il y a aussi des médias... Faut être honnête. Hein, la presse, c'est de l'information. C'est une façon de participer à la vie démocratique. Il y a plein de grands mots, souvent, qu'on met derrière la presse. Mais il y a aussi une part de plaisir. Et c'est un plaisir de lire, pour moi et pour quand même pas mal de gens, de lire un journal, de lire un site internet, d'apprendre des choses, de sourire un peu, d'être au contraire ému. C'est un vecteur d'émotion aussi. Et quand je vais cliquer sur la vidéo de Ronaldo qui met une bicyclette, je le fais et je sais ce que je vais chercher. Et je vais pas trouver que c'est pas assez profond. Juste, moi je préfère être éditeur personnellement pour mon travail au quotidien, je préfère être éditeur au jour.fr, mais quand j'appuie sur mon titre d'article « Regardez la bicyclette », je sais ce que je vais avoir et quand je l'ai à la fin, je suis très content. Voilà.
Oui, bonsoir. Je suis très sensible à ce que vous avez dit au début de votre exposé concernant la technicité que vous y mettez dans l'élaboration d'un texte. Et je suis surtout touché quand on a un tempérament obsessionnel comme le mien ou comme le vôtre, vous me pardonnerez. La ponctuation est très très importante. Et même elle véhicule, elle est sous-jacente d'une culture ou d'une sémantique propre à un esprit. Donné. Alors, ce qui me frappe dans l'ensemble de la presse française, c'est que la ponctuation est souvent rigoureuse et pertinente, ce qui n'est pas le cas dans des textes plutôt littéraires. Et là, je pense en particulier au dictionnaire que vous avez nommé, que vous avez toujours en page d'accueil. Il y a un propre, où c'est scandaleux. Des fois, il y a toujours soit une virgule de trop, soit une virgule de moins. Ou alors, en inverse, on ne sait pas utiliser les points-virgules ou les points tout court, tant et si bien que le sens devient totalement faussé, d'une part. Mais est-ce qu'il y a un standard, il y a une autre constatation liée à la langue dans laquelle on s'exprime, D'accord. Quand, par exemple, dans la langue anglaise, l'esprit est totalement différent. Et des fois, il y a une difficulté à comprendre ce qui est écrit, non pas à cause de la langue elle-même, du sens des mots, mais de la ponctuation. Tant et si bien qu'on est obligé de retourner le texte plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Alors, vous pouvez nous dire quelque chose à ce propos ?
Je revendique encore une fois, effectivement, comme vous, apparemment, le côté obsessionnel, effectivement, autour de ces questions de virgule, de point-virgule, où je me fais un devoir presque chaque jour d'essayer de glisser un point-virgule à un endroit opportun, mais de faire partie d'une espèce de ligue informelle de la préservation du point-virgule qui est en voie de disparition, qui est un signe de ponctuation, qui n'est pas une virgule, qui n'est pas un deux points. Sur la question de la langue anglaise, je sais qu'on avait une série qui était faite avec des habitants de Chicago les premiers mois après l'élection de Donald Trump, qui racontaient leur quotidien. Donc ils nous envoyaient leur texte en anglais, on les publiait en anglais et on publiait une traduction à côté. Et c'est vrai qu'éditer un texte en anglais, notamment effectivement autour de ces questions de virgule, de ponctuation, c'était une double difficulté. Je ne suis pas tout à fait sûr de m'en être sorti avec les honneurs. Mais c'est vrai qu'en français, ça dit quelque chose, effectivement, une ponctuation correcte. Après, moi, j'essaye de me dire aussi qu'une langue est en perpétuelle évolution. Je ne pousse pas des cris d'orfraie quand on change, quand petit à petit, par exemple, le sens d'un mot peut être mal utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça finit par tomber un peu dans le domaine public. D'ailleurs, souvent dans le dictionnaire, dans le Robert, on va le dire qu'au départ, c'est impropre, mais que... ça a fini par vouloir dire, je ne sais pas, comme exemple, faire long feu, par exemple. L'expression faire long feu veut dire tout et veut dire une chose et son contraire. Aujourd'hui, ça n'a pas fait long feu, ça n'a pas duré longtemps, ça a fait long feu, ça n'a pas duré longtemps. Bon, c'est pratique hein, comme expression. À force de l'utiliser mal, la même chose plus ou moins avec les coupes claires, les coupes sombres, des choses comme ça. Voilà, les choses bougent. Après, c'est vrai que sur la ponctuation... Je suis peut-être un petit peu plus vieille école, où j'essaye de mettre des blocs grammaticaux entre virgules, de ne pas oublier la deuxième virgule. Voilà.
Juste pour sortir de la question de ponctuation, il y a des tics de langage aussi faut débusquer. Et il y avait même une petite chronique sur France Inter qui me faisait beaucoup rire, où il relevait tous les tics de langage des journalistes. Donc ça, c'est aussi votre rôle, normalement.
C'est aussi notre rôle, mais j'en ai comme tout le monde. Et j'ai dû dire, je pense, 17 fois la même expression là, pendant cette heure au micro. On en a tous. On est plus ou moins... je sais, par exemple, qu'avec certains rédacteurs, je vais être plus ou moins attentif à telle ou telle spécificité de précision. Je me souviens... Dans un ancien emploi, j'avais une collègue rédactrice qui était fâchée avec les chiffres ou fâchée avec l'orthographe des noms propres. Et je sais que je vais être particulièrement attentif parce que je sais qu'elle va systématiquement écrire le nom et le prénom de la même personne de deux façons différentes entre le début et la fin de l'article. Bon, voilà. Avec l'éthique, effectivement, moi, un de mes grands combats, c'est la différence entre détonner et dénoter. Qu'on trouve de plus en plus et qui me fait m'arracher le peu de cheveux qui me reste. Ça, quelque chose détonne tout court. Du blanc détonne au milieu d'une mare de noir, mais elle ne dénote pas. Elle détonne. Voilà, ce genre de choses. On a chacun aussi ses petits gimmicks personnels sur lesquels on va insister.
Alors, comme le retourne, on va prendre une dernière courte question.
Oui, alors vous disiez de votre média qu'il a un contenu deep et
profond.
Profond. Et comme ça a l'air, ça peut paraître rare de nos jours dans les médias. Est-ce que vous considérez comme un média alternatif ?
Je ne crois pas qu'on le revendique en tant que tel dans le dans l'expression quand on en parle, par exemple, comme ici dans les interventions à l'extérieur. De fait, on n'est pas un média encore, je ne sais pas comment dire ça, de masse, grand public. On le sera peut-être un jour, et vraiment je le souhaite. On n'a pas de fétichisme, en tout cas, de l'alternatif. Mais on propose quelque chose qui est autre, ça c'est sûr. Au moins sur la forme et sur le fond. La forme, en fait, nous permet de proposer quelque chose de différent sur le fond, en quelque sorte. C'est un peu dans ce sens-là que ça se passe. Mais médias alternatifs, à la fois, on est dans pas mal de d'associations ou de regroupements de titres de presse avec pas mal de titres qui se disent, eux, alternatifs. Donc oui, on est plutôt de fait de ce côté-là. Voilà. Après, c'est pas un mot qu'on brandit en étendard particulièrement. Oui, oui, bien sûr. Non. Mais ni... Voilà, je sais que quand je travaillais à Terra Echo, c'était un mot qu'on utilisait beaucoup plus et qu'on revendiquait beaucoup plus sur le positionnement, on va dire, du titre en tant que tel. Mais au jour.fr, pas plus que ça, voilà, dans l'expression.
Bon, eh bien, il me revient de remercier très chaleureusement François Meurice, voilà, pour cette intervention.
Merci à vous tous.
Donc je vous invite à retrouver, à venir découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, Les Jours. Voilà, vous l'aurez sur tous les postes en consultation dans cet espace presse, ainsi que, comme vous l'avez vu, toute la presse qui est rassemblée ici. Je vous rappelle qu'il y a d'autres dates. Donc je vous invite le 23 avril à la prochaine table ronde sur l'économie, justement les nouveaux modèles économiques. Vous dire aussi que le cycle avait déjà commencé en septembre avec des grands entretiens, avec Samuel Fauré, entre autres, qui a été prix Albert Londres 2017. Tout ça a été enregistré, filmé, comme ce soir, grâce à nos régisseurs, voilà, que je remercie, et que vous retrouverez sur notre web TV, voilà, et web magazine pour l'ensemble des rencontres. Et donc, rendez-vous le 23 avril. Merci à vous. Et merci François.
Merci.